RFI, vous écoutez la Radio du Monde. Bienvenue, 2h à Paris, 1h en temps universel.
Antoine Galen.
À la une de l'actualité, Mayotte, François Bayrou s'est rendu sur place 2 semaines après le cyclone Chido. Rétablissement de l'eau, de l'électricité, fin des bidonvilles, aide aux entreprises. Voici les principales mesures de son plan, Mayotte debout. Pendant ce temps, le système de soins est en grande difficulté. Un hôpital de campagne a ouvert, vous l'entendrez. Dans ce journal également, le président algérien Abdelmajid Tebboune demande à la France des gestes vis-à-vis de la période coloniale. La Moldavie bientôt en manque de gaz russe. Résultat, le pays réduit drastiquement sa consommation d'électricité. Et puis le monde de la danse classique perd une de ses plus grandes chorégraphes. La sud-africaine Dada Mazilo s'est éteinte à 39 ans. Vous avez les titres ? Bienvenue. Mayotte, debout, c'est le nom du plan dévoilé par le Premier ministre François Bayrou pour reconstruire l'archipel après le passage du cyclone Chido. Avec 5 ministres, il dit vouloir rebâtir l'archipel en 2 ans, rétablir l'eau à son niveau d'avant-cyclone, l'électricité dans tous les foyers d'ici fin janvier et empêcher la reconstruction des bidonvilles. Sur place, la question des soins est urgente. Un hôpital de campagne a ouvert, mais celui-ci n'a pas vocation à durer dans le temps. Il n'est une réponse provisoire. Reportage à Mayotte de Lola Fourmi.
Devant les grandes tentes blanches qui font office de blocs et de salles de consultation, François Bayrou est revenu sur le bilan du cyclone Chido. Officiellement 39 morts, 4000 blessés, mais il maintient qu'il n'y a pas de milliers de morts.
Quelques dizaines ou quelques 200 d'êtres, c'est dans ces zones-là que nous disent les observateurs de terrain, on se trouve.
À l'extérieur, des dizaines de personnes attendent. L'hôpital de campagne a une capacité de 100 patients par jour, mais en reçoit plus de 300. Djama Joual se fait de l'ombre avec une branche. Il attend là depuis plus de 3 heures.
Le jour du Chido, je suis tombé. Après, je me suis cogné la main comme ça. Depuis ce jour-là, je me sens mal. Donc je viens pour voir si je ne suis pas cassé la main ou quoi. Voilà.
Daniela, une malgache qui vit ici depuis 3 ans, accompagne sa fille Hortensia, 7 ans, dont le bras est littéralement déformé par une fracture. Ce n'est pas la visite des officiels qui l'intéresse.
Ce que j'attends là, c'est le médecin. Le ministre, là, je ne sais plus quoi dire.
Pour voir un spécialiste chirurgie, mais on ne sait pas si on va le reprendre ou pas. Même si ce n'est pas acceptable, c'est ce que je vois, on n'a pas les choix.
Le CHU de Mayotte n'est fonctionnel qu'à 60%. Il faut d'urgence réparer le toit. Mais en attendant, l'hôpital de campagne n'a pas vocation à durer. Lola Fourmi, Mayotte, RFI.
Et François Bayrou a quitté l'archipel, direction La Réunion. Et puis, eux sont à Beyrouth, Sébastien Lecornu et Jean-Noël Barrot, les ministres français des armées et des affaires étrangères. Ils ont rencontré le commandant en chef de l'armée libanaise, Joseph Aoun, et passeront le nouvel an avec les militaires français de la force intérimaire des Nations Unies au Liban. La FINUL qui se dit préoccupée par la poursuite des destructions menées par l'armée israélienne dans le sud du Liban, malgré la trêve. En Syrie, Mohamed Al-Joulani, le nouvel homme fort de la Syrie, a nommé des membres des groupes armés rebelles dans l'armée. Mais c'est aussi le cas de plusieurs islamistes étrangers. 3 de ces combattants sont des Ouïghours chinois, dont Abdulaziz Daoud Koudaberdi, un commandant des forces du parti islamique du Turkestan en Syrie, ce qui pourrait irriter la Chine car ce groupe est la priorité numéro 1 de Pékin dans sa lutte contre le terrorisme. Direction l'Algérie désormais, le président Abdelmajid Tebboune s'est adressé aux Algériens et s'en est pris vivement à la France. Il est revenu sur les questions mémorielles dans un discours à la nation prononcé devant les 2 chambres du Parlement. Selon des extraits de son discours publié sur le site officiel de la présidence, le dirigeant algérien appelle Paris à reconnaître ses crimes en Algérie. Alors que les relations entre Paris et Alger sont au plus bas, il exige de la France certains gestes relatifs à la période coloniale ou Ouda Ibrahim.
Les Français doivent admettre qu'ils ont tué et massacré les Algériens, a souligné le président Tebboune en revenant sur la période coloniale et la guerre d'indépendance algérienne. Le chef de l'État a aussi appelé la France à nettoyer les sites des essais nucléaires contaminés dans le sud du pays. « Vous êtes devenu une puissance nucléaire », a-t-il rappelé, « et vous nous avez laissé les maladies ». À ceux qui, aujourd'hui, en France, vantent les bienfaits de la colonisation, le dirigeant algérien répond que celle-ci a laissé l'Algérie en ruine. 90% d'Algériens étaient analphabètes à l'indépendance, a-t-il ajouté. Évoquant la question sahraoui, il a affirmé que l'idée d'autonomie est une idée française et non marocaine, soulignant que les options de règlement qu'il propose pour la question du Sahara occidental sont des choix entre le mal et le pire, alors qu'il s'agit d'une question de décolonisation et d'autodétermination. Pour la première fois, le président Tebboune est revenu sur l'arrestation à la mi-novembre à Alger de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal. Il l'a qualifié d'imposteur au père inconnu. Il dit que Sansal est envoyé par la France pour affirmer que la moitié de l'Algérie appartient à un autre État.
En Allemagne, les premières conclusions dans l'enquête de l'attaque à la voiture Bélier. L'auteur présumé présente des troubles psychiatriques. Le drame sur le marché de Noël de Magdebourg avait fait 5 morts et plus de 200 blessés. RFI, 3h05 à Chisinau. Gazprom a annoncé samedi qu'il cesserait de livrer du gaz à la Moldavie au 1er janvier. Officiellement en raison d'une dette de ce pays envers le géant russe. La Moldavie, qui vient de porter au pouvoir une présidente pro-occidentale, s'est préparée à cette interruption en réduisant drastiquement la consommation d'électricité. Claire Fage.
Gazprom justifie sa décision de réduire à 0 mètre cube par jour ses livraisons à la Moldavie par un différend financier. Une dette que le géant russe estime à 700 millions de dollars. Les autorités de Chisinau contredisent ce montant et dénoncent l'utilisation par la Russie de l'énergie comme d'une arme politique, selon les mots du Premier ministre moldave. Le gaz russe continuait d'alimenter la centrale thermique de la région séparatiste pro-russe de Transnistrie depuis le début de la guerre en Ukraine et il fournissait encore 30% du courant consommé dans le pays. Mais la Moldavie, où la présidente pro-occidentale Maia Sandu vient d'être réélue, s'est dite prête à faire face. Depuis la mi-décembre, les éclairages sont limités, les horaires de production industrielle décalés des consommations de pointe des ménages. L'annonce de Gazprom intervient alors que l'Ukraine a décidé de ne pas renouveler au 1er janvier son accord de transit avec le géant russe, source de préoccupation non seulement pour la Moldavie, mais aussi pour des pays de l'Union européenne alliés de Moscou, tels que la Slovaquie, encore très dépendante du gaz russe, et dans une bien moindre mesure, la Hongrie.
Et ce week-end également, l'Ukraine a reçu sa première cargaison de gaz naturel liquéfié des États-Unis. L'Organisation mondiale de la santé a redemandé à la Chine de partager ses informations sur l'origine du Covid-19. Sans transparence, le monde ne peut pas se préparer aux futures épidémies, souligne l'OMS. La transparence chinoise remise en question car l'organisation lui reproche d'avoir dissimulé ses données. 5 ans après la pandémie, a tué plus de 7 millions de personnes à travers le monde. Le monde de la danse classique perd une de ses plus grandes chorégraphes. La sud-africaine Dada Mazilo s'est éteinte à 39 ans. Née dans le township de Soweto, elle avait su s'inspirer de l'Afrique du Sud et du continent africain pour moderniser les plus grands classiques de la danse comme le Lac des Cygnes. Récompensée à des multiples occasions pour son génie, Dada Mazilo laisse surtout derrière elle une façon unique de créer l'unité entre ses danseurs. Valentin Hugues a joint Tammy Huggins, l'une des anciennes des danseuses principales de la dernière création de Dada Mazilo au Jobourg Ballet, la pièce Salomé.
Vous savez, Dada était une chorégraphe très spéciale. Elle faisait partie des gens qui peuvent lire les énergies. Elle ne nous traitait pas comme des danseurs, mais comme des êtres humains. Et si nous n'étions pas dans un bon jour, elle le voyait tout de suite. C'était un peu notre psy qui veut juste qu'on soit heureux. Quand ça n'allait pas, elle nous disait « Bon, faisons un autre exercice, on va tous crier pour extérioriser nos frustrations. » Vous savez, en tant que danseuse de ballet, c'était juste incroyable de bosser avec quelqu'un qui avait une vision complètement différente de la danse. Elle avait fait de nous un groupe tellement soudé sur scène que nous n'avions pas besoin du traditionnel 1, 2, 3, 4, 5 pour s'y retrouver. On avait juste à se faire confiance et à se suivre comme par magie. Mais le plus tragique dans tout ça, c'est que je suis sûre qu'elle n'avait pas conscience d'avoir touché autant de gens partout dans le monde. Elle était beaucoup trop humble pour ça.
Un peu de sport avant de fermer ce journal. En football, 3e défaite de suite en Première Ligue pour Manchester United qui s'incline face à Newcastle 2-0. Les joueurs de Ruben Amorim sont 14e du championnat. De son côté, Chelsea manque de réalisme et perd 2-0 face à Ipswich. Et puis dans le Vendée Globe, cette course autour du monde à la voile, Charlie Dalin est repassé devant Johan Richaume. Mais les deux skippers restent au coude à coude dans la remontée de l'Atlantique. RFI, bientôt 2h10 à Paris, 1h10 en temps universel. C'est la fin de ce journal.